Tu m'as fait le cœur. Hein.
Allons donc.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas, mais qui a du cœur.
Carré de roi.
Carré d'As, dommage.
Impossible, ma cinquième carte était un as.
Je déteste être accusé de tricherie, surtout quand je joue.
À présent, enlève ton costume. Nous allons continuer avec 52 cartes seulement.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur.
Allô, allô.
Chut, ça tourne.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière émission de l'année de Carré d'As, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur. Une émission préparée par les volontaires en service civique du centre social, accompagnée par Yann de Micro-ondes et Crustacés.
Nous sommes en public ici, à la maison de quartier Zoé Puyot, à la Vierge Noire, dans le centre social Carré d'As. Je suis Marine et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, Marion. Alors Marion, quel est le programme du jour ?
Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de la mère. Pour ce faire, nous avons réalisé des portraits de plusieurs personnes travaillant dans ce domaine. Et on accueillera également ici en plateau Solène et Gaëlle qui se lancent dans une nouvelle aventure en reprenant un chantier ostréicole. Et également Eric, le capitaine du vieux gréement Amzerzo, basé au port de Morlaix.
Et on commence tout de suite, pas très loin d'ici, au Surf Shop, le Glacis, sur la route de Carantec. On va rencontrer Bertrand Cléache, merci, qui nous présente son métier.
Bah mon métier, donc, c'est gérant d'un surf shop. Donc, j'achète du matériel et que je revends ensuite. Et donc, mon but, c'est de conseiller au mieux les personnes qui viennent me voir, aussi bien sur du matériel technique comme des combinaisons, que des surfs, que des planches de stand-up paddle et tout ce qui est sport de glisse. Voilà, aujourd'hui, sur du wing foil principalement. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
En fait, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est tout simplement, je faisais d'autres métiers avant. J'étais mécanicien dans la marine nationale. Ensuite, je suis parti travailler dans le offshore. Et puis, malheureusement, le offshore, ça a chuté au niveau du cours du pétrole. Et donc, je me suis retrouvé sans emploi. Donc, j'ai cherché du boulot. Et malheureusement, je ne trouvais pas du boulot dans la région. Et comme depuis tout jeune, je pratique des sports de glisse, je trouvais que c'était étonnant, fort étonnant, qu'il n'y ait plus de magasins type surf shop sur Morlaix, alors qu'on a plein d'écoles de voile, d'écoles de surf, et qu'on a plein de pratiquants dans la région. Et si ça peut éviter aux gens de faire des allers-retours sur Brest principalement, puisque les gens vont principalement à Brest, et de faire 150 km aller-retour, je trouvais que c'était très bien d'avoir un magasin. Et moi, en tant que pratiquant, très régulier de ce type de sport, je trouvais que c'était fort dommage. Et puis, comme j'avais pas de proposition de boulot, que j'avais rien du tout, je me suis engagé. Je me suis dit, bon, allez, on y va, c'est bon, je suis assez mûr. Ça fait des années que je voyage à travers le monde, que je vais voir des spots à droite, à gauche. J'en profitais pour aller aussi voir les spots et pratiquer dans les pays que je visitais. Et je trouvais que c'était intéressant pour moi de créer mon entreprise malgré les risques que ça comporte, tout simplement. Voilà.
D'accord, bah c'est un très beau parcours en tout cas.
Merci.
C'est quoi pour vous une journée de travail classique ?
Journée de classique, pour moi déjà c'est d'arriver au boulot, de faire un peu de rangement, faire un peu de propreté. Ensuite ça va être de contrôler tous mes mails, de vérifier mon compte en banque aussi très régulièrement. Et puis ensuite d'essayer d'animer un maximum tout ce qui est page Facebook, Instagram. Parce qu'aujourd'hui les jeunes et surtout vous les jeunes... vous pianotez beaucoup là-dessus, et on se rend compte que c'est un outil indispensable aujourd'hui, et que pour un magasin, pour être viable aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vitrine internet, parce que sans vitrine internet, on ne vit pas. Et aujourd'hui, je vois qu'au bout de 2 ans et demi, ça y est, je commence à avoir de plus en plus de commandes de matériel par internet, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je commence à avoir de plus en plus de visibilité, donc ça prouve que ça crée ses fruits, tout simplement, ça porte ses fruits.
D'accord. Voilà. Quelles sont les qualités pour faire ce travail ?
J'ai pas de qualité particulière, hein, sinon que je vous dis, je suis un passionné depuis tout jeune des sports de glisse. De toute façon, je pense que pour être cohérent vis-à-vis de la vente, il faut quand même connaître un minimum. Si vous ne connaissez pas, les personnes le voient tout de suite en face de vous. Donc, et moi, mon but en étant tout seul dans mon magasin, c'est justement de faire au mieux et surtout de donner des conseils aux gens, de telle façon que les gens soient contents et puissent revenir me voir. Et c'est ce que je demande aux gens, c'est d'essayer de revenir me voir par la suite, savoir si je leur ai vendu un surf, est-ce que ça leur correspond bien, Et évidemment, ça me fait plaisir quand les gens reviennent me voir et qu'ils ont le sourire et qu'ils me disent « tu t'es pas trompé ». Ça, c'est gratifiant, voilà.
Vous écoutez Caredas, l'émission du Centre Social qui s'intéresse aujourd'hui au métier de la mer. Et on se dirige à présent jusqu'au chantier naval Jézékel, où nous avons fait la rencontre de Félicien, jeune apprenti charpentier marine, qui nous parle tout d'abord de ce qui lui a donné envie de faire ce métier.
Moi, j'ai commencé par l'ébénisterie. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé le travail de la courbe et les bateaux aussi. J'ai toujours aimé les bateaux, faire de la voile et autres. C'est comme ça que je suis arrivé dans la charpente navale.
C'est quoi une journée classique de travail ?
Oh, bah ça dépend des périodes des travaux qu'on a. Il y a des périodes où on est plus en train de faire de la fabrication de bateaux et d'autres comme ces temps-ci où on fait de l'entretien, on ponce les carènes avant de refaire des nouvelles peintures et des nouveaux vernis avant de mettre à l'eau.
D'accord. Qu'est-ce qui est dur dans votre travail ?
Je sais pas si on peut trouver des trucs difficiles quand c'est quelque chose qu'on aime.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ?
Fabriquer. J'aime bien fabriquer des bateaux.
Est-ce que vous avez une idée de comment votre métier va évoluer ?
Non, pour l'instant, c'est...
Non. Voilà, ça sera tout pour moi.
Okay.
Bonne journée à vous.
Merci Cindy pour ce petit portrait. Et nous, on accueille en plateau Mélissa qui nous présente le premier morceau qu'elle a choisi. Bonjour Mélissa.
Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux musiques que j'aime beaucoup. Pour commencer, nous allons écouter « Dès que le vent soufflera », musique des années 80, écrite et chantée par Renaud. Cette musique parle de sa vie sur son bateau et de la vie de marin avec son humour rempli d'autodérision. Alors qu'il parle de sa passion pour la mer et son bateau, son épouse Dominique lui cite « C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme » de l'aventurier Joseph Kessel, phrase qui l'inspira cette chanson lors d'une traversée de retour des Antilles vers la France.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. » Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Oh, 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 oh.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bitte d'amarrage, elle pleure. Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il zéro, mon bateau, c'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Pajot, Kersauzon et Ridel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera,
De retour à la Vierge Noire à Morlaix, au centre social Caridas pour notre émission qui s'intéresse au métier de la mer. Et on accueille maintenant Solène et Gaëlle qui se lancent dans l'ostréiculture. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours avant d'avoir repris un chantier ostréicole ?
Je commence. Bah, alors bonjour à tous. Moi, mon parcours, donc j'étais ingénieure dans les énergies renouvelables à Quimper sur le projet hydrolien Sabella pour l'hydrolienne à l'île d'Ouessant. Donc c'était un super métier, une super expérience, mais à mon goût, trop de temps en bureau, trop d'ordinateurs et pas assez de terrain, pas assez de... Enfin moi j'aime bien être dehors, j'aime bien le métier assez physique. Donc voilà.
Et moi j'étais officier de la marine marchande, j'étais mécanicien dans l'offshore aussi, comme monsieur du surf shop là. Et donc c'est pas tout à fait pareil, moi j'ai quitté mon boulot parce que ça me plaisait plus de partir à l'étranger pendant 6 mois de l'année. Et voilà, donc je voulais trouver quelque chose plus proche de ma famille et toujours un peu les pieds dans l'eau. Voilà.
D'accord, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir changer de vie ?
Oh, peut-être l'arrivée d'une d'un petit bout de chou.
Ouais, et puis non, comme on dit, on se plaisait plus dans nos anciens boulots, donc on s'est dit, bah, on passe le cap, on essaye de trouver autre chose. Et puis, bah, moi, je suis originaire de la baie de Morlaix, j'ai plein de copains qui sont ostréiculteurs. Donc, à force de discuter avec eux de leur métier, moi, j'avais déjà fait quelques marées avec eux étant plus jeune. On s'est dit que c'était peut-être quelque chose... Au début, on rigolait en parlant, on disait oui, mais c'est quand même... On pensait que c'était un métier qui était plus de père en fils et qu'on n'y arriverait pas forcément en venant de milieux complètement différents. Puis à force d'y réfléchir, on s'est dit bah, pourquoi pas, on se lance, on verra bien. Voilà.
Quelles sont les difficultés de votre nouveau métier ?
Bah, la difficulté physique déjà. Je pense que ça, c'est un des premiers trucs qu'on pense quand on pense à l'ostréiculture. C'est vrai qu'on est tous les jours de l'année à l'extérieur, qu'il pleuve, qu'il vente, les pieds dans la vase, jusqu'aux genoux des fois, jusqu'à la taille des fois.
Et puis il y a des l'hiver, c'est pour moi ce que j'ai trouvé dur, c'est les poches à vite. L'hiver quand on les pêche, c'est 15-20 kilos.
Ouais, c'est physique.
Pour une fille, c'est un peu dur, mais ça va, on trouve quand même des choses à faire et puis ça le fait quoi.
Après ça peut être dur pour un homme aussi.
Ah oui, ah oui.
Sinon qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
Bah c'est ça. Avoir les pieds dans la vase.
Être fatigué le soir quand on a fini notre journée, apprécier notre canapé, être dehors toute la journée, travailler avec les oies bernaches, les goélands. Voilà.
On dit toujours qu'on a un magnifique bureau quand on va travailler. Parce que...
C'est sûr.
Voilà. Puis avoir la baie de Morlaix, pour nous, c'est chouette. Quoi.
D'accord. Et comment vous voyez votre métier évoluer dans les années, dans les mois à venir ?
Ça, c'est une bonne question. Avec la conjoncture actuelle, c'est vrai que nous, on part un peu dans le creux de la vague. Et on se pose beaucoup de questions sur l'avenir. Après, maintenant qu'on est rentré, qu'on s'est lancé là-dedans, on n'a pas vraiment le choix, on va jusqu'au bout et on verra bien. Donc, on n'y réfléchit pas trop, on essaye de faire au mieux et voilà.
D'accord, bah, merci beaucoup pour votre temps.
De rien.
Merci.
Merci à vous.
Et nous, on prend la direction de Grain de Sel, où nous avons pu interroger le directeur Jacques Barraud, qui nous présente cette entreprise pas comme les autres. Une interview de Thomas et de toi, Marion.
En Grain de Sel, c'est une société dont l'idée est née en 2010. C'est finalement le couplage entre, d'un côté, une activité de transformation agroalimentaire, donc des cafés et des chocolats, okay, et de l'autre côté, un armement maritime décarboné, donc qui va exploiter un navire cargo à voile.
Okay. Comment on fait du chocolat et du café?
Alors, on va commencer par le café. C'est un produit qui est finalement relativement facile à travailler, puisqu'on va partir de la graine de café vert qu'on va torréfier. Donc c'est un petit peu comme si on faisait une cuisson. Okay. Et puis après, bah, ce café va se transformer donc, en grain de café, comme on le connaît tous. Et après, il va suffire de le moudre selon le type de café, du filtre, expresso, ce genre de choses. Donc il y a des moutures un peu différentes. Et puis après, il n'y a plus qu'à déguster. Donc le café, c'est simple. À côté, le chocolat, c'est extrêmement compliqué. On va toujours partir d'une graine, on va dire, de cacao, une fève de cacao, sauf qu'il va falloir lui faire tout un tas de transformations pour arriver petit à petit, donc avec une fermentation, à torréfier également donc, cette fève, la broyer, la transformer en pâte de cacao, qui va être du coup associé avec du beurre de cacao, du sucre, du lait quand on est un chocolat au lait, et tout ça va être conché, c'est une machine très particulière, qui permet d'aboutir finalement à un chocolat au lait ou un chocolat noir, hein, selon la recette. Mais là, voilà, je le dis très simplement, mais c'est finalement extrêmement compliqué, il y a énormément de paramètres à maîtriser.
Le chocolat prend plus de temps que le café, quoi.
Plus de temps, plus de complexité, plus d'argent, plus de tout. Plus, voilà, c'est vraiment quelque chose qui paraît comme ça très gentil quand on regarde une tablette, mais il y a beaucoup de métiers derrière et de savoir-faire.
Alors justement, combien de personnes travaillent dans l'entreprise?
Alors actuellement, on est là, on est à peu près mi-juin, on va dire 2020. Donc il y a 26 salariés donc, dans l'activité Grain de Sel. Okay. Plus 4 marins, marins pro du coup, dans l'activité donc, maritime, donc dans l'armement Grain de Sel Shipping. Et ces marins sont actuellement dans une phase qui s'appelle une phase de pré-armement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer le navire avant qu'ils partent en mer. Donc ils sont tous au chantier là, à travailler sur le navire. Okay. Et voilà.
Il existe un partenariat avec les Genêts d'Or?
Oui, alors ça c'est un partenariat historique. Il se fait qu'en 2013, quand on a commencé la torréfaction de café, il y avait une équipe de 4 ouvriers, donc ESAT, qui étaient disponibles. On avait appris ça, je ne sais même plus comment d'ailleurs, mais là, on a eu vent de cette disponibilité. Donc on était allé les voir et donc on a décidé de travailler avec eux, non pas pour la torréfaction du café, parce que ça c'est toujours maîtrisé par Grain de Sel, mais pour la partie mouture et mise en sachet. Et ça s'est vraiment très bien passé, ce qui fait que quand on a poursuivi le développement de la chocolaterie, donc ça c'était en 2015, il se fait qu'au même moment, il y avait une autre équipe ESAT qui était également disponible, mais cette fois-ci qui était plus grosse, hein, qui avait 14 ouvriers et une salle blanche qui était à l'Ambeur. Et du coup, bah, on s'est dit, puisque ça a marché pour le café, on va retourner les voir pour le chocolat. Et c'est comme ça que l'aventure s'est poursuivie avec eux pour le chocolat, et qu'on a donc aujourd'hui une équipe totale de 18 ouvriers ESAT plus 3-4 monitrices et moniteurs qui nous aident à la production.
D'accord, merci.
Quel bateau pour ramener la marchandise?
Ah, quel bateau? Ça, c'est une bonne question. En fait, on a le bateau est évidemment au cœur de notre stratégie, puisque quand on a décidé de créer Grain de Sel, on venait du secteur maritime. Donc on souhaitait avant tout développer une activité qui soit liée à la mer. Et on en est vite venu à cette notion de voilier cargo. Sauf que pour pouvoir financer un voilier cargo, il fallait déjà développer l'activité agroalimentaire d'abord, hein, donc faire les choses dans l'ordre, d'abord du café, puis du chocolat, et pour pouvoir en final financer le voilier. La taille du voilier actuel, donc, qui est un gros voilier, hein, 22 mètres, c'est un gros voilier. En revanche, c'est un tout petit cargo, donc ça dépend comment on voit les choses. Et la taille du voilier, en fait, est uniquement due à notre capacité, en fait, de financement et également liée à notre besoin d'emport, en fait, de café vert et de cacao, qui correspond, en fait, à la taille actuelle, en fait, de l'entreprise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années à venir, on va développer d'autres voiliers cargo qui seront de plus en plus gros et qui vont du coup permettre de transporter nos besoins croissants, on va dire, de matières premières.
Pourquoi c'est important d'utiliser les voiles ?
Parce qu'en 2020, c'est finalement le moyen le plus simple et le plus maîtrisé de réduire le bilan carbone du transport maritime. Parce qu'il y a d'autres solutions qu'on a en tête, comme pouvoir utiliser des motorisations électriques, voire des motorisations hydrogènes, ce genre de choses, mais qui sont aujourd'hui des solutions qui sont encore dans des cycles amont de recherche et développement. Et finalement, quand on regarde les choses assez simplement, assez factuellement, on se rend compte qu'il n'y a encore pas mieux que le vent pour finalement déplacer un navire de manière efficace.
Quelle est la capacité de stockage du cargo ?
Alors la capacité actuelle du navire de 22 mètres est comprise selon la densité de ce qu'on met dedans, dans la cale, entre 35 et 50 tonnes. Ce qui correspond, là pour l'instant en tout cas, sur la cale qui a été designée à 28 palettes au format américain. Et ça correspond globalement à nos besoins en importation de matières premières des années donc 2020 et 2021.
Quel est le parcours prévu ?
Alors c'est un parcours qui part des côtes bretonnes et qui va aller directement, enfin plus ou moins directement vers New York, puisque on a initialement raisonné sur l'importation de café vert et surtout de cacao, hein, qui représente 90% de la cargaison. Mais bien évidemment, on s'est dit, il est hors de question que le bateau reparte à vide, donc on a décidé, en tant que Français, on va dire, d'exporter du vin vers New York, hein, puisque New York, c'est une des principales zones de chalandise qu'on voit quand on est à la pointe bretonne, donc on regarde en face. Hein, donc on a tout simplement décidé d'acheter du vin en France et de le transporter nous-mêmes et de le commercialiser nous-mêmes sur New York. Donc, le premier voyage, c'est la Bretagne vers New York, et puis après, il descend dans la zone Caraïbes, notamment en République dominicaine. Et pour après, en ayant chargé le cacao et un peu de café vert, revenir directement en Bretagne.
Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview.
Avec plaisir.
On se devait également d'aller faire un tour dans la seule poissonnerie du centre-ville de Morlaix, à l'angle de la rue de Paris. Et du coup, Thomas Jean-Marie est allé à la rencontre des poissonniers Thierry et Valérie Troadec.
Je voudrais savoir quel est le poisson qui est le moins cher en ce moment.
Le poisson le moins cher en ce moment, c'est le maquereau. Et vous avez aussi la truite d'élevage de Plouignot.
Une idée de recette avec ce genre de poisson ?
Alors, le maquereau, on peut le fileter. Prendre un pinceau et le recouvrir de moutarde, les filets, et les passer au four en position grill. Là. Ou on peut aussi faire des rillettes de maquereau. C'est sympa.
Quelle est la principale qualité pour être poissonnier ?
Pour être poissonnier, déjà, il ne faut pas être frileux. Il faut avoir...
De l'endurance,
parce qu'on a beaucoup de bacs à porter, ils sont assez lourds. Et aussi, la priorité, c'est d'aimer le contact avec les clients. Voilà.
Si vous aviez un métier lié à la mer, lequel aurait aimé faire et pourquoi ?
Si demain je devais changer de métier, je pense que j'aimerais bien ouvrir un restaurant, faire que les produits de la mer. Ou un bistrot, un bar à huîtres, où on pourrait déguster des huîtres, des coquillages, des moules, des carpaccio de noix de Saint-Jacques, des rillettes de maquereau, enfin tout ce qui est lié à la mer. Voilà.
Très bien, je vous remercie.
Merci.
On retrouve tout de suite Amandine Baudéné d'Algo Plus, qui, avant de nous faire découvrir ce qui se fabrique et se cuisine sur le site de Roscoff, nous présente les qualités qu'il faut pour être vendeuse animatrice dans une entreprise comme Algo Plus.
Donc être vraiment polyvalente, ce que je peux faire à la fois la vente, l'animation,
la cosmétique aussi, être préparatrice de commandes aussi pour, je gère le site internet, donc ouais, être polyvalente, ne pas être timide, parce que des fois j'ai 50 personnes en groupe, donc il faut, ouais, faut savoir, au début c'était pas facile, hein, mais bon après on prend sur soi, c'est en faisant qu'on apprend aussi, et être rigoureuse assez, parce qu'il y a pas mal d'organisations entre gérer le site internet, la boutique, les animations, le magasin. Il faut savoir être bien organisé.
Ouais. D'accord.
Voilà, c'est la chaîne d'assemblage.
Voilà. Donc, après la récolte des algues qui va se faire au printemps, vu que c'est là qu'elles ont le meilleur apport nutritionnel, la meilleure texture aussi avec les premiers rayons du soleil, il y a la production. Donc ça fait depuis 27 ans qu'AlgoPlus a été créé et depuis 12 ans qu'ils ont pu investir grâce aux algues dans tout ce qui est machines, la main-d'œuvre, les cuisiniers, poissonniers. Donc ils vont faire une recette différente par jour et ils sont 3 collègues à plein temps du lundi au vendredi. Donc là, l'après-midi, c'est principalement du nettoyage, l'hygiène alimentaire. Et le plus gros de la cuisine va se faire le matin. Donc en quantité, ils vont faire à peu près 400 pots de soupe ou alors 2000 à 4000 pots de rillettes. Donc c'est vraiment une petite conserverie artisanale. On va être expédié que dans les épiceries fines en France, une petite partie dans les supermarchés en Bretagne seulement. Donc ça va vraiment rester local, ce qui permet de toujours travailler en frais de qualité. On est une des seules conserveries artisanales de France à travailler qu'avec du poisson frais et entier. Entier, ce que je dis souvent dans la soupe de poisson, quand vous n'avez pas marqué poisson entier dans la liste des ingrédients, vous pouvez être sûr que c'est tous les déchets, la tête, les arêtes de poisson. Donc pas le même goût que la bonne chair, pas le même coût pour le producteur non plus, alors que sans aller payer la soupe le même prix aussi. Donc c'est la vraie soupe de poisson qui est marquée toujours poisson entier. Pareil dans les rillettes, de la chair de poisson, de la crème, de l'assaisonnement et c'est tout. Vraiment le produit pur et simple, tout est stérilisé, ce qui évite tout ce qui est conservateur, additif, colorant, il n'y a rien de tout ça. Et en assaisonnement, souvent, on va mettre une petite partie d'algues. Même si vous ne les sentez pas forcément, ça va être en gélifiant avec la carragénane. Donc la carragénane qui est une algue rouge frisée qui va permettre de remplacer la gélatine de porc. Ou aussi avec la laitue de mer qui va avoir un petit goût iodé de sel qui peut remplacer le sel d'ailleurs. Donc on peut mettre des algues partout au niveau de la cosmétique aussi. La cosmétique est vraiment reconnue avec les algues depuis bien avant les algues alimentaires. Donc on est vraiment autour de la cosmétique alimentaire et la conserverie surtout qui nous fait travailler toute l'année.
Vous écoutez Caritas, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur. Et tout de suite nous accueillons Thomas Jean-Marie qui nous présente sa chronique culinaire.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette classique de La Réunion. Ce sont des moules au colombo à la version créole. Pour cela, j'ai besoin de 1,2 moules bien lavés, du gingembre frais à doser selon nos envies, du sel, 2 gousses d'ail finement hachées, 2-3 échalotes finement hachées, 3 cuillères de soupe d'huile, et pour la quantité de colombo, suivant nos envies, des tomates fraîches en boîte ou au persil du thym, de l'eau pour la sauce, du piment vert ou une pâte de piment. Au niveau de la préparation, dans un faitout, je verse de l'huile et je fais revenir les échalotes. En attendant, je mixe les gousses d'ail et le sel avec un pilon pour bien mixer l'ail et tout. Je rajoute le gingembre pour relever le goût des épices, surtout quand on cuisine les produits de la mer. Je rajoute ce mélange une fois que les échalotes sont bien dorées et je verse la poudre de colombo. Ensuite, les tomates finement hachées, le piment, je laisse mijoter à feu doux. Je goûte le mélange en rajoutant de l'eau si nécessaire pour avoir une bonne quantité de sauce, puis je la laisse réduire. Et enfin, pour finir, je verse les moules et le persil. Je les laisse quelques minutes à grand feu, le temps qu'elles soient bien ouvertes et je le couvre avant de servir au client.
C'est très fin, ça se mange sans fin.
À table.
Voguons à nouveau vers Roscoff, où Mélissa a interrogé il y a déjà pas mal de semaines Jean-Luc Yvain du chantier naval, qui porte son nom et qui nous présente son métier.
Alors, moi, mon métier, c'est de, à l'origine de construire des bateaux.
D'accord.
Mais c'était des bateaux de pêche, et on s'est retourné vers la plaisance. Et à l'heure actuelle, on fait des réparations et ce qu'on appelle des refontes. On refit un bateau complètement pour le refaire naviguer encore.
D'accord.
Dans tant d'années de plus, quoi.
D'accord. Ok, super. Du coup, comment on devient votre métier pour...
Par hasard. Par hasard.
Et, ça vous plaisait
Oui, je suis né sur le port à Roscoff. J'ai toujours été avec des bateaux et le hasard a fait que je me suis mis à...
Vous vous êtes lancé dans...
Voilà, je suis rentré dans un chantier, je me suis mis à travailler, puis après je me suis mis à mon compte.
D'accord. Voilà. Ah oui, vous êtes à votre compte.
Oui, okay. Ça fait 44 ans que je fais ça.
D'accord, super.
Voilà.
D'accord. Et donc, quelles sont les qualités pour faire ce métier? Question difficile.
Déjà, il faut être polyvalent. Savoir faire plusieurs choses. Et puis, c'est un métier dur. Il faut
physique,
vraiment, ouais. Oui, très physique et il faut vraiment en vouloir. Voilà.
D'accord.
Et après, toute personne qui est courageuse le fait. Voilà.
Les désavantages, du coup, peut-être?
Alors, quand on est dans ce métier-là, on ne fait plus de bateau.
D'accord.
Le week-end, on ne va pas sur l'eau parce qu'on est trop fatigué. Et
ouais,
puis, on voit trop de bateaux. Voilà.
Oui.
Ça, c'est l'inconvénient.
Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, qu'aimez-vous dans votre métier?
Oula, plein de choses.
Plein de choses.
Plein de choses. Que ce soit du bois, du composite, des mécanos soudés, de la manutention. Ouais, j'adore.
Tout ça, ouais. Cet ensemble.
Ouais. Puis il y a aussi l'unité qu'il y a avec tous mes ouvriers. Voilà, l'intelligence des gens.
Et vous avez combien d'ouvriers du coup?
Trois.
Dans votre... Trois ouvriers.
Ouais, ça me suffit amplement.
À temps plein, oui.
Ah oui.
Et vous travaillez pas le week-end du coup?
Ah non.
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 Toute
non.
La semaine, c'est suffisant déjà.
Oui.
C'est assez physique.
Oui.
D'accord, très bien. Super, je vous remercie en tout cas.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup.
On accueille en plateau notre deuxième invité du jour, Éric Depoix, capitaine de Amzerzo. Bonjour Éric.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours?
Alors, moi j'ai fait pas mal de choses, en fait pas mal de métiers différents. J'ai commencé en ostréiculture, puis j'ai fait la pêche. Ensuite, j'ai passé des brevets marine marchande, donc là j'ai fait de la voile professionnelle. J'ai fait également, j'ai travaillé sur les sabliers, sur un navire océanographique. Je suis même allé donc en Afrique faire travailler en tant que capitaine de surfeur, donc en fait pour ravitailler les plateformes pétrolières. Et puis je reviens toujours à mes amours premières qui sont la voile traditionnelle. Voilà, donc j'ai fait également beaucoup de voiles traditionnelles.
D'accord. Comment êtes-vous devenu capitaine du bateau Amzerzo?
Par brevet déjà, hein, c'est une obligation, et puis par passion. Depuis l'âge de 6 ans, je navigue sur des voiliers traditionnels et je n'arrive pas à m'en passer. Donc voilà, ça a été... En fait, je suis passé par l'ostréiculture d'abord pour arriver financièrement à investir dans un navire comme Amzerzo. C'est un coût assez élevé. Et puis voilà, je me suis lancé.
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Amzerzo?
Alors en breton, ça veut dire il y a le temps, on a le temps. Donc c'est une belle philosophie. Malgré ça, c'est un bateau qui présente des capacités assez intéressantes, hein, puisqu'on fait quand même des belles vitesses quand on pousse la machine. Voilà, donc ça reste un outil physique très, très contraignant quand les éléments s'y mettent, mais passionnant.
Très bien. C'est quoi votre quotidien?
Ah, mon quotidien, il est fait de polyvalence, comme un peu la charpente de marine, puisqu'en fait... Je fais de la navigation, je fais de l'administratif, je fais de la mécanique, je fais de la voile, je gère des passagers, je fais de l'entretien, du nettoyage, plein de choses quoi.
Comment se présente l'été 2020 pour Amzerzo?
Très difficile vu le contexte sanitaire actuel. Les sorties ont repris depuis... Enfin, le calendrier des sorties a été rouvert depuis aujourd'hui. Voilà. Bon, les gens sont encore un peu frileux, je pense, pour faire des sorties actuellement, surtout vu la météo. Et, mais la saison 2020 va être très difficile. C'est une activité saisonnière, malgré le fait que j'arrive à, hors saison à faire des sorties plus longues sur plusieurs jours pour faire de l'apprentissage ce coup-ci, donc, puisque le, bah, l'outil est un outil complet et qui permet également de faire de l'apprentissage. Voilà. Cette année, ça va être un peu dur. Enfin, très dur, on va dire même.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup Eric.
Et place à toi maintenant Mélissa pour ton deuxième choix musical.
Donc pour le deuxième morceau, je vais vous faire découvrir The Ocent. Morceau de 2016 de Mike Perry, DJ suédois très reconnu, accompagné de Shai Martin et Nirob Islam. C'est un morceau qui parle de sa copine et d'un vaste océan. Écoutez maintenant ce morceau qui, je l'avoue, me plaît beaucoup. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get.
On continue notre tour de baie de Morlaix à la rencontre des professionnels de la mer et maintenant, direction loisirs nautiques où on a rencontré Alexandre Mapin qui nous présente son métier.
Ça va être technico-commercial, c'est-à-dire de la vente et aussi du technique, des conseils aux clients, voilà.
D'accord.
Les aider à naviguer le mieux possible.
Et qu'est-ce qui vous plaît du coup dans ce métier ?
Le contact avec le client, le fait d'être sur le terrain aussi.
Oui.
Et de ne pas être confronté juste au commercial, mais aussi à l'atelier.
D'accord, d'être actif plutôt.
Tout à fait.
D'accord. C'est quoi une journée classique de travail pour vous ?
Dans le nautisme, il n'y a pas forcément de journée classique. On a la pleine saison, mais aussi on a l'hiver ou qui est un peu plus dur. C'est-à-dire qu'on joue en fonction des saisons. Donc que ce soit en tant que la clientèle ou en tant que produit.
D'accord, ça varie tout le temps.
Pas tout le temps, mais il y a des saisons, quoi.
Ouais.
Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez du coup dans votre boulot ?
On ne s'ennuie pas. La discussion avec les clients, parce qu'on reste quand même sur un métier qui est un loisir pour les clients, hein, forcément.
Oui, oui, oui.
Donc du coup, c'est une passion. Donc bon, partager avec eux cette passion-là, c'est intéressant.
Oui, d'accord. Et comment votre métier va évoluer ?
Ouh là là. Alors là, je ne sais pas du tout. Je pense en bien.
Oui.
En bien, c'est pas quelque chose qui se perd. Ouais.
Ok. Bon bah je vous remercie en tout cas.
C'est moi.
Au revoir.
C'est la fin de cette dernière émission de la saison 2 de Caredas, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur.
Merci à tous ceux qui se sont engagés dans ce beau projet. Merci à tous nos invités et merci au public présent ici à la Vierge Noire.
Et merci à Radio Nord-Bretagne de diffuser cette émission. À bientôt.
À bientôt. On a un peu l'impression que... On se casse.
C'était très bien.
Oh. Et alors je vois plus long que son père. À moi, il me prend le cœur. À toi, il te fait rire.
Oh, très bien. Je rirai.